donc tu pars un peu à...
Bonjour et bienvenue pour le Face-à-Face, votre rendez-vous de politique française et de débat avec nos invités. David Revaud-Dallone, rédacteur en chef de la revue L'Hémicycle, qui s'intéresse cette semaine à la parité.
La parité, le vrai bilan de la parité et des lois. Où sont les femmes? Facialement, elles sont en bonne position, autant que les hommes. Mais quand on creuse un petit peu et qu'on regarde dans l'arrière-cuisine, on s'aperçoit que c'est en réalité peu reluisant et qu'il y a beaucoup de travail sur le partage des véritables responsabilités politiques.
Et autre invité, Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de Politis, avec un dossier sur la Syrie.
Oui, avec un grand entretien avec Farouk Mardambé, qui est le grand intellectuel syrien, qui était interdit de territoire depuis 50 ans, qui remet les pieds pour la première fois en Syrie en janvier dernier. On a un grand entretien avec lui, puis un autre dossier qui est très actuel aujourd'hui puisqu'il est présenté dans les instances du ministère de l'Éducation nationale, la fâcheuse question de l'éducation à la sexualité.
Alors, on va parler politique française, bien sûr. Ensemble, les prochains jours seront décisifs pour le Premier ministre François Bayrou. Connaîtra-t-il le même sort que Michel Barnier? La possibilité d'une censure se rapproche après les propos de François Bayrou sur le sentiment de submersion migratoire. Les socialistes sont furieux. Regardez cet échange à l'Assemblée nationale.
Si vous gouvernez avec les préjugés de l'extrême droite, nous finirons gouvernés par l'extrême droite et vous en aurez été le complice.
Les préjugés sont nourris par le réel. Nous sommes engagés au service des Français pour résoudre les problèmes qui se posent, non pas pour les nier, non pas pour les exagérer, mais pour leur apporter des réponses. C'est notre responsabilité de République.
Pierre, se dirige-t-on tout droit vers une censure du gouvernement Bayrou ?
La feuille de route de François Bayrou, c'était d'essayer de faire tenir les deux jambes, la gauche et la droite. Il a réussi à maintenir la droite dans son gouvernement. Il essayait de discuter avec les socialistes. Jusqu'à maintenant, les socialistes discutaient avec François Bayrou. Sauf qu'il y a des lignes rouges à ne pas franchir pour la gauche, et notamment au Parti socialiste, qui est la question migratoire, la question dont on perçoit les étrangers dans notre pays. Et là, il y a une limite qui a été franchie. Et ça a été rappelé hier par Boris Vallaud. Et effectivement, c'est une condition, au-delà de la question budgétaire, mais c'est une condition suffisante pour le Parti socialiste de voter la censure. Ce matin, Johanna Roland sur Public Sénat annonce, elle, vouloir appeler ses camarades socialistes à censurer ce gouvernement. Maintenant, on sait une chose, c'est que cette censure ne peut passer que si l'extrême droite vote cette censure. Donc, retour à la case départ qui était celle de Michel Barnier. On a là un gouvernement qui est encore sous l'emprise du Rassemblement National. Donc, c'est pas pour rien que François Bayrou a donné des gages hier à l'extrême droite et pas à la gauche.
Et pourtant, la France a besoin d'un budget. David, vous pensez que ce terme de submersion migratoire, ça représente la pensée réellement de François Bayrou? C'est un calcul? C'est une maladresse?
Bonne question. On s'interroge toujours sur... Pour savoir pourquoi, finalement, François Bayrou s'est lui-même torpillé lui-même la possibilité d'un deal, si vous me permettez cette formule, avec les socialistes. Pourquoi il s'est tiré une balle dans le pied à ce moment-là, à deux jours d'une CMP, une commission mixte paritaire dont on va parler, qui est décisive? Tout à fait d'accord avec l'analyse de Pierre. C'est retour à la case Barnier. Maintenant, juste sur les mots eux-mêmes. Dans un premier temps, François Bayrou, il a quand même parlé du sentiment de submersion. Il n'a pas expliqué qu'il y avait une submersion. Il a parlé d'un sentiment. Et c'est vrai que, il faut le dire, c'est mon analyse, c'est que la gauche a souvent nié ces questions, a souvent été dans le déni sur des questions régaliennes, sur la question de l'immigration, de la sécurité, qui fait que c'est une des raisons pour lesquelles, pas la seule, mais une des raisons pour lesquelles le Rassemblement national et l'extrême droite ont prospéré. Deuxième chose, c'est que incontestablement, il reprend ce vocabulaire de l'extrême droite, ça c'est vrai. Alors beaucoup expliquent, notamment c'est le cas des socialistes, que ce faisant, il donne le point au Rassemblement national à l'extrême droite, mais en réalité, le point, comme l'a dit Sébastien Chenu hier sur une matinale radio du service public, en réalité, le point, la fameuse bataille culturelle, la bataille pour l'hégémonie culturelle, le Rassemblement national l'a déjà gagnée, ou du moins est en passe de la gagner. Donc la vraie question, je reviens à votre point de départ, qu'a fait François Bayrou? Pourquoi diable est-il allé se mettre dans cette galère? Sentait-il que les socialistes allaient le planter pour parler crûment? C'est vrai qu'avant même cette sortie sur la submersion, il y avait beaucoup de débats au PS et on sentait qu'il y avait beaucoup moins d'allants de la part des socialistes pour aller s'embarquer dans un deal avec François Bayrou et un accord de non-censure.
Vous vouliez ajouter quelque
chose? Oui, je vais ajouter une chose, c'est qu'il se joue aussi, c'est à travers l'intervention qui est allée encore plus loin que la position de François Bayrou lors de son interview à LCI, hier devant les députés. Il a donné le bon point à Bruno Retailleau. C'est-à-dire que c'est la ligne Bruno Retailleau qui gagne dans ce gouvernement. Et c'est ça que valide aussi François Bayrou. Et il sait très bien que si François Bayrou avait donné trop de gages à la gauche, il y avait la possibilité, on sait très bien qu'il y a des possibilités de démission de Bruno Retailleau qui met quand même beaucoup la pression sur son Premier ministre. Donc c'est cette partie-là de son accord qui est en train de gagner. Et probablement a-t-il raison, parce que le Rassemblement national ne votera sans doute pas la censure la semaine prochaine. Il a déjà donné son cap, le Rassemblement national, c'est l'attente d'une prochaine dissolution. Donc si François Bayrou veut être un peu tranquille jusqu'à la prochaine dissolution, il a intérêt à donner des gages à l'extrême droite. Ça ne rend pas service au pays, mais en tout cas, ça lui rend service à lui qui risque d'être un peu tranquille pour les prochains mois.
Alors on a procédé à un petit tirage au sort, et David, vous avez perdu. Vous devez expliquer ce que c'est qu'une commission mixte paritaire à nos téléspectateurs en détail. Ou en tout cas, expliquez-nous l'importance de cette CMP.
Alors, on va essayer d'être simple et pédagogique. Une CMP, c'est un vocabulaire un peu obscur, un peu bureaucratique. Ça, c'est une commission mixte paritaire qui regroupe des représentants de l'Assemblée et du Sénat, en l'occurrence 7 députés, 7 sénateurs. En rapport avec la une de l'hémicycle dont je parlais tout à l'heure, on constate qu'il n'y a qu'une très faible représentation de femmes, au passage. Et donc, c'est cette commission mixte paritaire qui va essayer de trouver un accord sur le texte, le projet de loi de finances, puisque le Sénat a voté une version qui est assez proche de celle qui avait été censurée à l'époque de la chute du gouvernement Barnier, et reprendre cette version-là et trouver un accord avec les députés. Et d'habitude, c'est une étape qui peut être importante en cas de désaccord entre les deux chambres, entre l'Assemblée et le Sénat. Mais là, dans le contexte actuel, la CMP prend un tour décisif puisque, évidemment, c'est de là que peut sortir la lumière ou du moins la fumée blanche. C'est de là qu'on saura s'il y a un accord. Pour l'instant, c'est possible puisqu'il y a quand même une majorité, on va dire, de droite et de centre, c'est-à-dire entre la droite et le bloc central. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'elle sera votée puisque, et à l'évidence, il n'y a toujours pas de majorité pour la voter. Et on en revient à notre point. La vraie question, c'est que le gouvernement va sans doute être obligé d'utiliser un 49-3. Et la vraie question, c'est de savoir qui va voter la censure.
Il y aura une position quand même très compliquée pour le gouvernement, avec la gauche, on l'a entendu, mais aussi peut-être avec la droite au niveau économique, avec ces nouvelles taxes dont on parle pour les grands groupes. Et il y a un homme qui n'est pas du tout content, c'est le patron d'LVMH, Bernard Arnault. Alors, il était aux États-Unis pour l'investiture de Donald Trump. Il est de retour en France et il s'est exprimé sur ces nouvelles hausses d'impôts possibles. On écoute Bernard Arnault, sa parole est rare, mais quand il parle, ça compte.
Quand on vient en France et qu'on voit qu'on s'apprête à augmenter les impôts de 40% sur les entreprises qui fabriquent en France, c'est quand même à peine croyable. Donc on va taxer le Made in France pour refroidir les énergies. On fait difficilement mieux. Pour pousser à la délocalisation, c'est idéal.
Pour rappel, Bernard Arnault, c'est quand même un des hommes les plus riches du monde.
Le quatrième,
il crée beaucoup d'emplois en France. On peut penser qu'il a l'oreille du président, en tout cas, il a l'oreille des grands dirigeants. Une petite réaction, Pierre et David, à ces propos du patron d'LVMH.
On vit une crise quand même qui est considérable. L'idée même que les plus fortunés de notre pays, et notamment les entreprises qui créent le plus de richesses, soient mises à contribution pour participer du rétablissement des finances publiques, ça paraît pas incohérent. Maintenant, voilà, moi j'ai bien vu les premières images de l'investiture de Donald Trump. Il était en très bonne position, au même niveau quasiment que les anciens présidents américains, au même niveau que Javier Milei, que Giorgia Meloni. On sent très bien qu'il est aussi dans une espèce de... Je sais pas s'il est le porte-parole d'Emmanuel Macron quand il va là-bas, ou s'il est lui-même le porte-parole de Donald Trump vis-à-vis de la France. Voilà, donc du coup, je trouve ces propos assez peu respectueux de ce pourquoi il est sans doute résident fiscal en France aujourd'hui, parce qu'il bénéficie de l'assurance, d'un système aussi qui coûte cher, mais qui est celui de la santé, qui est celui de notre système éducatif. Il le dit lui-même d'ailleurs, qui ne souhaite pas quitter la France pour toutes ces raisons-là. Je trouve que c'est assez peu républicain de sa part que de considérer que les entreprises ne doivent pas mettre au pot commun.
Deux choses. D'abord, c'est vrai que vous l'avez dit, c'est très rare que Bernard Arnault s'exprime, mais quand vous écoutez l'intégralité de l'extrait, c'est assez incroyable. C'est quasiment un plaidoyer pro-Trump. Et ça veut dire que...
Niveau
économique, bien sûr. Mais bon, c'est ce qui l'intéresse. Il ne s'exprime pas sur les questions géopolitiques. Mais oui, est-ce que ça veut dire que les grandes entreprises françaises et les grands entrepreneurs, les grands patrons du CAC 40 sont susceptibles de basculer sur un soutien politique à ce type de régime? Ça, c'est une vraie question, parce que c'est toujours comme ça que ça commence, on l'a vu dans l'histoire. Et puis, deuxième point, c'est bien sûr sur le bilan d'Emmanuel Macron. Il ne restait pas grand-chose au bilan d'Emmanuel Macron depuis la dissolution, et beaucoup de critiques sur ces 7 années qui vont bientôt faire 8. Il restait deux choses. Il restait la bonne tenue de l'économie, entre guillemets, et des investissements étrangers. Et deux, le chômage. On voit que le chômage est en train de remonter en flèche, et on se prévoit des jours difficiles pour l'année prochaine, pour cette année qui commence. Et puis, que voilà, les potentiels investisseurs étrangers et même français pourraient détaler et être séduits par les États-Unis. Encore une fois, écouter Bernard Arnault en intégralité, c'est assez inquiétant et surtout assez surprenant.
On parle là quand même d'entreprises qui ont fait des bénéfices records. Enfin, les dividendes reversés aux actionnaires font sont des records. On parle de 100 milliards d'euros de dividendes versés sur l'année 2024. Je pense qu'il y a des marges à trouver. Donc c'est pour ça que je disais que c'est assez irresponsable de sa part qu'il ne considère pas qu'à sa hauteur, il doit participer justement de l'effort du redressement des finances publiques.
On va parler maintenant de politique culturelle. Pourquoi ? Parce que, point positif pour Emmanuel Macron, il y a eu la rénovation de Notre-Dame à temps. Et là, il vient d'annoncer un autre chantier, c'est le Louvre, le musée du Louvre, qui va connaître en quelque sorte une seconde jeunesse. Énorme budget, 800 millions d'euros, quelques mesures annoncées. La Joconde va sortir, va avoir une salle spéciale. Les visiteurs étrangers hors UE risquent de payer un petit peu plus cher. La politique culturelle ? Positif pour Emmanuel Macron ?
En tout cas, Emmanuel Macron, depuis quelques semaines, quelques mois, on se demandait ce qu'il faisait. Hein, très clairement, on se posait des questions. Il essayait d'aller au Liban pour la reconstruction. Personne n'en parlait. Il s'exprimait ici et là. Il y a quelques jours, il avait même fait une petite faute de quart en répondant à un internaute qui s'inquiétait des péages. Vous avez vu que l'affaire n'était pas très bien calée en termes de communication. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, là, il tente de reprendre un petit peu la main sur, évidemment, un élément du récit national très important. Un joyau historique, le Louvre, un symbole très très emblématique. Je crois que c'est de bonne guerre. Le président, c'est plutôt son rôle, mais je ne suis pas du tout certain que sur le plan politique, c'est ce qui va lui permettre de remonter la pente. On attend aussi des annonces de visites sur le terrain, en Provence, un peu en province. Il va un peu essayer de reprendre son bâton de pèlerin, comme l'avait fait Jacques Chirac en son temps, pour renouer avec les Français. C'est ce fameux cliché, ce fameux poncif politique, mais rien ne dit que c'est ce genre de coups politiques et d'annonces qui va lui permettre de remonter à la bourse de l'opinion.
Juste pour petite information, 800 millions d'euros, a priori auto-financés par le Louvre. Donc l'État ne mettra pas d'argent. Et ça, c'est aussi une stratégie, ou en tout cas, c'est quelque chose qui est cher au cœur du président Macron, dégager des marges de manœuvre financières.
Oui, vous parlez de politique culturelle. Le problème, c'est que ce qui est annoncé là aujourd'hui au travers le Louvre, ça ne fait pas en soi une politique culturelle quand vous savez que dans le même temps, il y a 150 millions d'euros budgétaires qui ont été sabrés dans les budgets du ministère de la Culture, que vous savez que des départements, des régions, des collectivités sabrent les budgets culturels parce que justement les dotations aux collectivités sont en train de baisser, que la politique culturelle est donc en train d'être appauvrie partout en France, des emplois menacés. Ça ne fait pas en soi une politique culturelle. Je veux dire, trouver 800 millions d'euros et annoncer qu'on peut trouver 800 millions d'euros quand dans d'autres secteurs, c'est impossible de maintenir les subventions. Ça pose quand même question justement sur quelle est l'ambition d'Emmanuel Macron sur ses politiques culturelles. Et puis, par force est de constater que le symbole, je change de sujet. Enfin, c'est un peu le même sujet. Il a commencé sous les pyramides du Louvre son premier quinquennat et il semble vouloir les finir à travers cet édifice qui est évidemment mondialement reconnu et connu. Et sans doute, c'est une bonne chose que de vouloir rénover cette institution. Mais ça ne fait pas en soi une politique culturelle.
Ouais, voilà, la boucle est bouclée. À la pyramide du Louvre. Merci beaucoup, messieurs, pour cette émission. Le face-à-face prend fin. Restez bien sûr sur France 24. L'info continue. À bientôt.